Passion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Compositrice, abbesse, guérisseuse, visionnaire, poétesse et prophétesse, Hildegarde de Bingen est une importante figure du XIIe siècle dont les écrits et les partitions ont survécu jusqu'à nos jours. En 2012, elle est canonisée par le pape Benoît XVI et nommée tout aussitôt docteur de l'Église. Seules quatre femmes possèdent ce titre. Pourquoi, près de 9 siècles après sa mort, l'abbesse a-t-elle reçu une telle attention ? La réponse se trouve sans doute dans son histoire, ses ouvrages et ses partitions. Des partitions que nous découvrons aujourd'hui avec Marcel Pérez, chef de l'ensemble Organum, qui chaque printemps depuis 2013 organise à Moissac des rencontres Hildegarde. Elles se dérouleront cette année du 8 au 12 mai. À l'occasion d'un concert où il faisait entendre des compositions d'Aliénor d'Aquitaine, mère abbesse de Fontevraud, il mettait en miroir ces deux figures féminines qui, à un siècle de distance, ont marqué à des degrés divers la vie culturelle, musicale, mais aussi religieuse de leur époque.
Toutes deux sont religieuses, mère abbesse, et donc, à ce titre, ce sont des femmes qui chantent l'office, on peut dire entre 12 et 15 heures par jour, et qui nous ont laissé des témoignages musicaux. Alors, on connaît beaucoup plus de choses sur Hildegarde de Bingen que sur Aliénor de Bretagne. Ce ne sont pas les mêmes personnalités, parce que Aliénor de Bretagne, on la connaît par son livre de messe, qui est un livre très richement décoré. C'est un des chefs-d'œuvre de la fin du XIIIe siècle. Et puis, il y a de la musique unique, certaines pièces qu'on ne trouve que dans ce manuscrit. Mais ce n'est pas elle qui les a composées, mais voilà, c'est un excellent témoignage de la vie musicale foisonnante des couvents féminins à cette époque-là. Hildegarde de Bingen, alors c'est une autre figure parce que elle n'est pas uniquement abbesse, elle est musicienne, compositeur, médecin, visionnaire, mystique, et une personne qui a profondément marqué son temps. Mais j'aime bien me concentrer sur ces deux personnages parce que au travers d'elle, eh bien, se révèle tout un monde. Un monde religieux, liturgique, et puis aussi il y a une dimension mystique, c'est-à-dire Hildegarde de Bingen a essayé de comprendre comment le monde fonctionne et avec les outils du mystique, c'est-à-dire au travers de la contemplation. Et le travail que j'essaie de faire à Moissac en créant ce rendez-vous Hildegarde aux alentours du 1er mai, eh bien, c'est d'aborder la pensée et la personnalité d'Hildegarde au travers de sa musique, et plus particulièrement en remettant sa musique dans son contexte liturgique. Parce que c'est une dimension qu'on a évacuée ces dernières années. Hildegarde est revenue sur le devant de la scène dans les années 1980.
Elle avait été oubliée.
Et alors, c'est un phénomène, justement, passionnant de demander pourquoi et comment une personnalité qui a certes marqué son temps, mais qui est tombée dans l'oubli, parce qu'il faut bien dire que les hommes du XIVe siècle, du XVIe ou du XVIIIe siècle n'étaient pas passionnés par Hildegarde. Hein, c'est ça. Mais spontanément, à la fin du XXe siècle, subitement, cette personnalité réapparaît. Et ce n'est pas une volonté ecclésiastique.
Dans quel contexte, pourquoi?
Par le New Age et la nutrition, quoi, en fait. Parce qu'il se trouve que Hildegarde a écrit un traité de médecine. D'ailleurs, c'est le plus ancien traité de médecine d'Occident, avec celui de Erhard von Landsberg, fin du XIIe siècle aussi, qui a écrit à la même époque un traité de médecine. Donc il est intéressant de constater que le plus ancien traité de médecine occidentaux, ce sont deux femmes qui l'écrivent, et au XIIe siècle. Donc on va essayer de comprendre pourquoi, ce qui se passe à ce moment-là. Mais alors, donc à la fin du XXe siècle, l'homme occidental commence à saturer un peu des notions de progrès, des notions qu'on commence à sentir que le mythe du progrès continu commence à s'essouffler, que à la fois le progrès technologique nous apporte des choses nouvelles, mais on oublie d'autres choses et qui peut-être sont fondamentales pour l'homme, et c'est ce qui expliquerait un peu le désarroi d'un certain nombre de nos contemporains. Et une personnalité comme Hildegarde nous remet en contact avec une nature déjà. On réalise que peut-être pour certaines affections bénignes, on n'a pas besoin d'aller chez le pharmacien, mais il suffit de regarder un peu les herbes qui poussent dans notre jardin, et que peut-être on peut trouver des solutions. Donc c'est un peu comme pour les chemins de Saint-Jacques, vous savez, bon, on peut trouver des tas de motivations pour les chemins de Saint-Jacques, mais je crois que la première motivation, la première chose qui fait que les gens se jettent sur les chemins de Saint-Jacques, c'est qu'on redécouvre le fait de voyager à pied, de marcher, quoi. On n'a pas besoin de voiture, d'avion, de tout ce que vous voulez. On a la capacité en soi, simplement, ben voilà, il suffit de vouloir, on a deux jambes, et on peut marcher. Et Hildegarde, c'est un peu un phénomène semblable, quoi. C'est-à-dire grâce à sa manière d'aborder la nourriture, de regarder le monde naturel, et il n'y a pas que les plantes, hein, y a les animaux, il y a les minéraux aussi. Eh bien, on peut créer un autre type de relation au monde. Et il faut dire aussi que le catholicisme du XXe siècle, et même au XIXe d'ailleurs, avait évacué cette dimension. Hein, et d'ailleurs, l'exemple vient de haut, parce que Benoît XVI, avant de partir à la retraite, le vieux sage lui a filé aux jeunes générations le bébé Hildegarde. Parce qu'une dernière chose qu'il a faite, c'est de décréter Hildegarde docteur de l'Église, ce qui a surpris pas au nombre de théologiens, parce qu'on se rend compte qu'Hildegarde a regardé un petit peu comme, bon, quelqu'un de sympathique, mais d'un peu allumé, quoi. Et tout d'un coup, le pape dit, voilà, les docteurs de l'Église, ce qui veut dire que vous devez vous mettre à son école. Et d'ailleurs, avant de partir, Benoît XVI, il a écrit aussi, c'est un des derniers livres qu'il a écrit sur l'enfance de Jésus. Et là, il y a un chapitre sur les rois mages qui est tout à fait étonnant et qui est de la même verbe, parce que dans le chapitre sur les rois mages, carrément, il place le christianisme dans la grande perspective de la tradition religieuse assyro-babylonienne. Parce que ces rois mages, ben, c'est quoi? Ben oui, ils arrivent, et puis l'histoire de l'étoile qui les a guidés, oui, c'est un fait astronomique. Il y a eu effectivement une étoile 3-4 ans avant la naissance, enfin la date zéro, parce que maintenant on sait qu'il y a eu un petit décalage de quelques années avant par rapport à la date qu'on a retenue de la naissance du Christ. Donc effectivement, il y a eu une conjonction planétaire qui arrive, je ne sais plus le chiffre exact, je crois tous les 2500 ou les 2600 ans. Et ceci nous rappelle que effectivement, quand on aujourd'hui encore, quand on consacre un prêtre, on le consacre selon l'ordre de Melchisédek. Et Melchisédek, ben, c'est bien avant le christianisme. Donc c'est cette idée que le christianisme, comme Jésus disait lui-même, il n'a rien aboli, il est venu tout accomplir, tout assumer. Et les rois mages, voilà, c'est ce mystère fondamental où toutes les sciences, toutes les connaissances de ce qui a précédé l'incarnation, eh bien, concourent et se retrouvent dans ce Christ. Et je crois que Hildegarde, c'est un peu la même chose, parce que ce christianisme du XIIe siècle, il a encore conservé énormément d'éléments du christianisme du premier millénaire. Cette science que Hildegard nous a transmise, cette science des plantes, eh bien, bon, c'est une science. Elle a le mérite de l'écrire.
Elle avait des visions, non ?
Elle avait aussi des visions. Alors, dans ses écrits, il y a toutes sortes de choses. Hein. Il y a des lettres tout à fait prosaïques. Il y a des visions qui sont des visions cosmogoniques sur la création des mondes. Et puis, il y a ses écrits de médecine. Qui valent ce qui valent, évidemment, toujours par rapport à la médecine moderne, il y a des choses bizarroïdes. Mais
on peut le replacer dans le contexte du XIIe.
Mais il y a des choses qui ne sont pas belles du tout, déjà. Il y a des choses. Il faut le passer dans le contexte. Et justement, dans nos rencontres Hildegard, ici à Moissac, nous essayons de développer tous ces aspects, donc en conférence, de théologie, sur. Déjà, on va expliquer ce que ça veut dire docteur de l'Église. On le dit comme ça, mais moi, je crois un docteur de l'Église, c'est quelqu'un qui par son œuvre apporte un enseignement universel qui transcende son époque et qui peut nous aider à mieux comprendre, à mieux entrer dans la révélation d'une dimension du christianisme. Qui pourrait nous échapper, quoi, et que cette personne-là a particulièrement développé, compris, et par ses œuvres, elle a illustré. Alors, avec Hildegard, c'est le premier compositeur.
Et oui, sa musique, alors justement, parlez-nous un petit peu de sa musique.
De l'Église. Alors, on savait déjà, on n'avait pas attendu ça pour savoir que la musique a un enseignement spirituel, d'accord. Mais là, maintenant, c'est vraiment autre chose, d'autant plus que Hildegard a même écrit des textes sur la musique. Et j'aimerais citer une petite phrase d'Hildegard qu'elle a écrite dans un contexte assez difficile. Je résume rapidement. Elle avait reçu dans son monastère un jeune homme qui était agonisant. Il est mort et elle l'a enterré. Bon. Et là, elle s'attire les foudres de l'évêque de Mayence, dont elle dépendait, parce que ce jeune homme avait été excommunié auparavant. Pour des raisons X. Et donc, un homme excommunié n'avait pas le droit d'être enterré, et surtout dans une enceinte sacrée. Et puis, elle a dit non, je ne vais pas le mettre au loup, il est enterré, il reste là. Donc, l'évêque se fâche, et il leur interdit de chanter la liturgie. Et là, Hildegard prend sa plus belle plume, et elle écrit à l'évêque, et il lui dit écoutez, Monseigneur, vous nous interdisez de chanter l'office. Par obéissance, nous allons arrêter de chanter, mais sachez que vous n'avez pas pouvoir de nous interdire de chanter, parce que le chant est la seule chose que les hommes ont conservée du paradis terrestre. Et donc c'est un don de Dieu direct, et un don de Dieu, on ne peut pas nous le retrancher. Et même le diable est tellement enragé de voir que l'homme a conservé cette faculté de chanter, qu'il ne cesse d'introduire dans l'Église un esprit de discorde à propos du chant. Voilà ce qu'elle a écrit. Au XIIe siècle, vous voyez, alors évidemment, voilà, le type de parole, on ne peut plus universel, on se sent tous concernés par ce genre de choses. Alors pour la petite histoire, après l'évêque a découvert qu'il avait été excommunié, mais sous des prétextes fallacieux, donc voilà, bon, les choses sont rentrées dans l'ordre. Alors, la musique d'Hildegard, eh bien, premièrement, c'est une musique liturgique. Et c'est important de le dire parce que tous les enregistrements, à part ceux des moniales de Bingen, parce qu'il y a encore des moniales, des bénédictines à Bingen, Le monastère, il est du 19e siècle, mais c'est du roman 19e, très bien fait. Et puis, il y a une communauté qui est assez nombreuse. Pour ce faire longtemps que je ne suis plus allé, mais enfin, quand j'étais allé, c'était une bonne 40-50. Hein. Mais à part elle, tous les enregistrements d'Hildegarde, à part le nôtre aussi, que nous avons fait il y a une vingtaine d'années, eh bien, n'ont jamais replacé la musique d'Hildegarde dans son contexte liturgique. Ce qui fait qu'on entend une musique quoi, qui plane, on a l'impression d'une espèce de, voilà, de pitié qui marche sur les eaux du Rhin et au clair de lune, les cheveux au vent.
C'est
presque
la Lorelai.
Voilà, voilà. On est en plein là-dedans. Et, alors que simplement, sa musique, c'est des antiennes qui encadrent des psaumes, il y a des répondes, office de nuit ou des répondes de procession. Donc c'est vraiment une musique liturgique, et ben, Hildegarde a pratiqué la liturgie quotidiennement, hein, depuis, elle avait dû rentrer à 6-7 ans au monastère, et elle a passé sa vie à pratiquer la liturgie romano-franque. Hein. Donc, replacer voilà, sa musique dans ce contexte liturgique. Et alors, voilà, bon, et puis Hildegarde, bon, j'avais laissé un petit peu ça de côté, et puis quand j'ai vu que Benoît XVI nous l'a remise sur le devant de la scène, eh bien, je me suis dit, ben maintenant, ben on va, il faut que le boulot commence, vraiment, que l'on comprenne déjà pourquoi cette femme réapparaît aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a à dire à l'homme d'aujourd'hui. Et je crois que c'est le premier message. Après, je trouve que c'est extrêmement fécond de réfléchir sur ces résurgences, parce que ça nous délivre du temps linéaire. Et de fait, quand ces choses ont commencé à faire, c'est le moment dans les années 70 et 80 où on a commencé dans nos sociétés à découvrir les vertus du patrimoine. Parce qu'avant, le patrimoine, c'était pour les vieux, c'était trucs de vieux. Et tout d'un coup, les années 70, 80, on a commencé à restaurer des choses, à prendre conscience qu'il y a aussi un patrimoine et que justement, cette modernité nous arrache tellement à ce patrimoine parce qu'on est pris dans un mouvement et on se sent déraciné, qu'au travers de formes d'art patrimonial, tout d'un coup, on découvre, au-delà de ces formes d'art, on découvre des manières de vivre, des manières de penser, des manières de percevoir. Il faut toujours avoir la tête que la première fonction de l'art, c'est d'apprendre à percevoir, apprendre à voir, à entendre, à sentir, à comprendre, à demi-mot même.
Et être mise en relation.
Et mise en relation, parce que même si la modernité est passée par là, le monde est toujours le même. Et aujourd'hui, si vous voulez, avec la documentation qu'on a, l'ouverture, comme je disais tout à l'heure, l'ouverture à d'autres cultures, d'autres temps, ça, je crois que maintenant, il faut qu'on arrive à un christianisme universel, mais non pas universel en pensant qu'il est
géographiquement
dans le temps.
Oui, spatio-temporel.
Dans le temps aussi, ouais. Voilà. Parce que c'est, vous voyez, c'est Carolingiens qui ont exporté la liturgie romaine et qui ont mis en place des laboratoires de psalmodie où ils pratiquaient ce qu'on appelait la laus perennis, c'est-à-dire on chantait 24 heures sur 24 les psaumes. Parce que pour eux, le psaume, c'était un feu vivant. Le feu de la Vestale, c'est la psalmodie qui vient du temple de Jérusalem. Les Carolingiens, eux, plus que tout le monde ont compris ces choses-là. Et alors, regardez ce qu'ils... Et ne pas penser que ce sont des formes d'art ou de pratiques socioculturelles qui sont dans notre temps. Non, on a des choses à apprendre de ces choses-là. Et plus on a cette sensibilité, plus on s'ouvre vers d'autres rites chrétiens. Et là, par exemple, quand je parle de laus perennis, je pense aux Éthiopiens, par exemple, vous voyez. Et d'autant plus que les chrétiens d'Orient aujourd'hui sont dans une situation extrêmement délicate. Enfin, délicate, c'est un euphémisme. Ils se font massacrer et leurs traditions peuvent vraiment disparaître, parce qu'à partir du moment où ils seront en diaspora, où ils apprendront leur liturgie sur des enregistrements et non plus.
Ça va être assimilé.
Et nous, en Occident, nous, quand je dis nous, on est très peu. On est très peu qui sont conscients de ces traditions, qui sont conscients de l'importance de conserver une tradition qui est quelque chose de vivant. Une tradition, c'est un feu vivant. Donc, c'est une flamme à préserver. Ce n'est pas simplement des gestes ou des paroles mécaniques. Non, c'est un feu. Donc, il y en a très peu en Occident qui sont conscients de l'importance de conserver vivant ce feu. Et Hildegarde arrive à point nommé, vous voyez. Hildegarde, parce que sa musique, elle est très étrange, parce que c'est à la fois une musique qui ressemble à rien. C'est une musique personnelle. Et en même temps, je ne connais pas une musique plus traditionnelle, quoi. Et c'est le paradoxe et le secret.
Et en même temps, elle est ancrée dans une tradition aussi.
Je dirais que c'est le secret, c'est ce qui fait l'alchimie d'une tradition. C'est-à-dire, une tradition, c'est quelque chose de toujours, mais c'est quelque chose d'unique. Et c'est quelque chose qui est totalement lié à ceux qui la transmettent. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas le dire avec des mots, parce que c'est quand même paradoxal. La tradition est l'expression d'une lignée. Et en même temps, c'est l'expression de l'individu aussi qui transmet cette lignée. C'est pour ça que c'est toujours vivant, quoi. Et une tradition, elle est permanente, stable et en constante transformation. Quand on a compris ça, on a compris la véritable nature de la tradition. Et regardez tout le Moyen-Âge occidental. Disons, jusqu'au XVIe siècle. À partir du XVIe siècle, il se passe autre chose. Jusqu'à la fin du XVe siècle, jusqu'à cette charnière de... 16e siècle, où là, il y a vraiment une cassure. D'une part, à cause de la réforme, parce qu'avec la réforme, je dirais qu'on va déchirer la tunique du Christ, quoi. Voilà, il s'introduit quelque chose. Là, on n'est plus dans une église unique.
Quoi, il y avait déjà eu le schisme en 1054.
Alors, avec l'Orient aussi, voilà, ouais, il y avait eu le grand schisme. Mais en Europe occidentale même, ce que va faire le Concile de Trente, c'est qu'on va avoir tellement peur de l'hérésie qu'on va essayer de tout contrôler, tous les textes, toutes les choses comme ça. Alors que jusqu'au XVe siècle, on est encore dans un christianisme de la prophétie. Et la liturgie, c'est l'expression, on est encore dans la tradition première, quoi.
La réforme grégorienne était quand même passée par là aussi.
Oui, mais quand même, non. Ça n'a pas eu. Parce qu'on reste encore, et Hildegarde dans l'illustration, et là, on pourrait en citer à tous les siècles, mais je vous dis, jusqu'au début du XVIe siècle, on est dans le christianisme prophétique, c'est-à-dire que la liturgie, c'est le moment où on observe ce qui se passe, ce qui vient, le message qui vient. C'est pas là, on répète pas mécaniquement des trucs, même si, oui, il y a des textes, des choses. Mais c'est justement cette alliance entre des choses continues et fixes et puis tout le reste qui doit intervenir. Et c'est pour ça que pendant tout le Moyen-Âge, vous avez, oui, ce fond, on peut dire grégorien pour faire rapide, hein, qui est là, mais il n'arrête pas de créer. Il y a de la création perpétuelle. Ils n'arrêtent pas d'improviser. Il y a le fond grégorien, mais ils improvisent sur ça. Parce que ce qu'on attend, c'est ce qui va surgir de l'instant. C'est le moment de cette manifestation de l'esprit. Et voilà ce que la divinité a à nous dire. Et au travers du médium, le médium, c'est qui? C'est le chantre. C'est le chantre, le médium. Et c'est pour ça que le chantre, c'est un ordre mineur. Et ça, jusqu'à Pidis, on avait conservé ça, hein. Chez les Grecs, ils ont conservé ça encore. Hein, le chantre reçoit une cérémonie, dans une cérémonie, l'imposition des mains de l'évêque après une formation d'au moins 7 ans. Hein. Ils sont là, et puis c'est depuis l'enfance qu'on se prépare à ça. C'est vraiment une vocation. Quoi. On n'arrive pas comme ça.
À travers les maîtrises.
Il y avait les maîtrises. Alors, dans les paroisses, après le Concile de Trente, vous avez les chantres d'église qui ne sont pas nécessairement des religieux, mais c'est une transmission de père en fils, donc la neveu, et puis c'est, voilà, des enfants de cœur qui étaient là depuis l'enfance et qui deviennent chantres. Mais avant, si vous voulez, je reviens à ce passage. On est passé d'un christianisme prophétique jusqu'au XVIe siècle à, je dirais, un christianisme de l'allégorie. Et l'allégorie, c'est quoi? C'est qu'on produit des images, des objets qui font référence à quelque chose, mais qui ne sont plus la chose. Ouais, c'est l'allégorie de quelque chose. Aujourd'hui, on parle des ténèbres, de la lumière à l'église. Sauf qu'il n'y a plus de ténèbres dans les églises parce qu'on met des éclairages électriques partout. On ne s'éclaire plus à la bougie. Même à une messe en plein jour, on allume l'électricité. Parce que, vous comprenez, ça va faire triste. Quoi. Donc, on n'est plus du tout, mais on n'est plus lié au cosmos. Parce que, ben oui, s'il fait sombre, il y a des nuages. Ben oui, mais le temps, il est comme ça. Sinon, voilà, il fait beau, on est au printemps, le soleil rentre, s'il est dans l'axe est-ouest ou sud, je ne sais pas, mais on vit avec le cosmos. Et la liturgie des heures, elle est là justement pour nous accorder au rythme du cosmos. Et donc, la première heure, la troisième heure, quand le soleil est à mi-course entre l'horizon et son zénith, et c'est l'heure de la messe d'ailleurs, la troisième heure. Enfin, toutes ces choses-là, qu'aujourd'hui on considère comme des choses facultatives ou même folkloriques. Ou même superstitieuse. Hein?
Alors qu'elles avaient un sens.
Ben, c'est le fondement, vraiment, voilà, c'est le fondement de la religion. Bon, souhaitons que ce coup de projecteur que Benoît XVI a mis sur Hildegarde, en nous enjoignant à étudier son œuvre, sa pensée, eh bien, nous permette de renouer avec ce christianisme de la grande, grande tradition.
Du 8 au 12 mai, le temps à Moissac sera rythmé par la musique et par la parole d'Hildegarde de Bingen. Concert dans l'abbatiale, et le samedi 11 mai, de 15h à 19h, quatre intervenants nous parleront d'Hildegarde de Bingen et de la circulation des connaissances au XIIe siècle grâce au chemin de Saint-Jacques.